Ici aussi, l'espérance de vie varie entre 47 ans et 60. 47 ans en Guinée-Bissau et 71 ans au Cap-Vert. Réalisme ou pessimisme? Une telle description laisse croire que les peuples de cette région, sauf de façon sporadique, que les peuples de cette région pourraient ne jamais se relever de leurs blessures. C'est là où nous faisons appel à Antoine de Saint-Exupéry. La terre nous en apprend plus long sur nous-mêmes que sur tous les êtres. L'homme se découvre lorsqu'il se mesure avec l'obstacle d'en taire des hommes. Mais le champ de la laïcité, sans doute, un trait d'union et de prédilection pour l'intercompréhension, ne saurait se nourrir que de sa non-application véritable. Peut-être faudrait-il alors trouver en l'ensemble des clés la laïcité comme la clé qui permettrait de sortir de ces conflits internes. De là naît aussi le problème de la compréhension ou de l'incompréhension de la compréhension, à propos duquel Edgar Morin écrit dans Le Monde de l'éducation. Le problème fondamental, écrit au... Oui, fait écrire, puisque c'est une interview, Edgar Morin. Le problème fondamental est celui de la compréhension. La compréhension, ce n'est pas seulement l'explication. C'est voir les êtres comme des sujets. Or, écrit-il, nous vivons dans un monde d'incompréhension. On ne se comprend pas entre cultures différentes, dans une même famille, entre parents et enfants, dans un même couple. Si une chose devrait être absolument enseignée dès le primaire, ce serait comment se comprendre. Fin de citation. Comment se comprendre? Enseigner le comment se comprendre. Troisième volet, dernier volet de mon intervention. Qu'est-ce donc gouverner si ce n'est jouir? Troisième volet, laïcité mystique de la bonne gouvernance. Laïcité mystique de la bonne gouvernance et gestion des conflits. Qu'est-ce donc gouverner si ce n'est jouir de la puissance de gérer un peuple ou la cité par le fait de l'intelligence de l'humain, tant sur le plan horizontal et de la force divine sur le plan vertical. Dans son ouvrage intitulé Égypte pharaonique, Bernadette Menu rappelle quelques passages significatifs des textes des pyramides pour illustrer les compétences du roi. Le roi est Dieu. Triomphant des embûches, il réjouit les autres dieux après sa mort. Il rejoint les autres dieux après sa mort. Le roi exerce sa puissance sur tout l'univers, y compris les dieux eux-mêmes. Le roi est le juste qui installe Maat, c'est-à-dire l'ordre, source de vie et de justice. Le roi, le prince. Mais je ne nous renvoie pas à l'univers de la royauté. Dans les pratiques du vaudou, cette force est en chaque individu. En milieu fond, à Abomé, on admet habituellement l'idée selon laquelle l'âme d'un individu ayant bien vécu sur terre revient s'incarner dans un nouveau corps, celui d'un nouveau-né. D'ailleurs, dans ces civilisations, un roi qui a régné et qui n'aura pas été un roi de référence de qualité n'est plus cité. Quand la tradition orale vous y renvoie pour une enquête, vous demandez aux sages, mais et cette période, ils vous répondent, seuls les anciens vous le diront. On cherche donc les rois à référence qu'il faut enseigner. Donc c'est une puissance didactique qui est exploitée par. Que signifierait ici bien vivre? Ou plus généralement distiller le vivre ensemble. J'ai peur du vivre ensemble. De l'appellation comme ça, vivre ensemble. j'ai peur. S'il peut être admis que le bien-vivre de chaque être provient de sa puissance, son unique puissance créatrice, le vivre ensemble fait appel à trois dimensions existentielles. La première dimension, c'est l'en-soi, qui exige de soi-même, une auto-transformation de qualité, d'esthétique et d'éthique intérieure qui se voudrait grandissante, libératrice et florissante. L'en-soi. Mon en-soi florissant projette des fleurs sur autrui. La liberté, la paix intérieure. Deuxième dimension, l'alentour. C'est-à-dire l'environnement ou le climat social qui se voudrait apaisé et beau, d'une beauté qui favorise et facilite l'harmonie dans la chaîne de solidarité, faute de quoi le vivre ensemble serait analogue à une vie de jungle ou une vie dans des gouffres amers d'un océan agité. Vivre ensemble. Dans une ville, dans un même espace, nous vivons ensemble. Mais dans une forêt, une superficie d'un kilomètre carré, les lions, les rats, les biches, vivent ensemble. Est-ce que vivre ensemble veut dire quelque chose si on n'ajoute pas vivre ensemble de façon harmonieuse et pacifique? Donc, le vivre ensemble tel que propagé me gêne un tout petit peu. J'aurais voulu que chaque fois, on y ajoute harmonieusement ou pacifiquement. Vivre ensemble de façon pacifique ou de façon harmonieuse. Sinon alors, vivre ensemble pourrait ne vouloir rien dire de mon point de vue, mais c'est peut-être une mauvaise compréhension de l'expression. La troisième dimension, c'est l'autre, donc du principe de l'altérité, en tant que l'autre, en tant que force de reliance, et encore là, nous interpellons le cher Morin. Force de reliance harmonieuse, tant humainement que spirituellement. L'enfer, c'est les autres? Non. Pas la Sartre. L'enfer, c'est les autres, mais je dirais ici que, pour une fois, on pourrait dire que les autres devraient pouvoir être le fondement de mon équilibre et de ma tranquillité. Mais qui sont les autres? Sur ce champ, trois voies s'ouvrent. Celle qui consiste à s'abandonner à Dieu et à attendre. Je ne ferai pas appel à Jacques le fataliste. Celle-ci est proche de l'animisme pratiqué en Afrique de l'Ouest où les lieux de culte se multiplient en guise de substitution au sanctuaire de l'univers magico-religieux des temps anciens. Les évangélistes et les nouvelles pratiques gagnent du terrain parce que l'expression extérieure de l'animisme se manifeste à travers et alors il y a conversion, reconversion. On vit plus facilement cela parce que celui qui est animé de puissance magique retrouve là son animation. Ou du moins son animisme. La deuxième voie consiste à travailler à l'amélioration matérielle et morale, ainsi qu'au perfectionnement intellectuel et moral de l'humanité. Il s'agira ici d'œuvrer à bâtir, dirait certaines pratiques, le temple intérieur, c'est-à-dire sa propre personnalité, et le temple extérieur, qui consiste à humaniser la société dans le dessein de célébrer Dieu. La troisième voie consiste à cultiver à ne croire en rien et à ne rien attendre de personne, d'aucun être suprême. De ces trois voies, une seule s'impose à l'Afrique subsaharienne. On n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Croire en soi et travailler à se perfectionner soi-même en améliorant ses moyens de production, sa production et sa chaîne de distribution pour créer de la richesse, autocréation. C'est la seule voie qui nous reste. La religion n'est-elle née, entre autres, qu'un moyen pour y parvenir, pour ceux qui y croient? Ce faisant, cette forme de croyance, au centre de laquelle se trouve Dieu, ne peut qu'exercer une influence certaine sur l'humanité, donc sur l'État et la société, et ce, dans le dessein de célébrer les valeurs humaines mentionnée plus haut. Telle semble être la nouvelle joie, la nouvelle voie choisie par la CEDEAO, qui postule que l'objectif principal aujourd'hui pour l'Afrique de l'Ouest, c'est de favoriser l'intégration économique en promouvant la constitution d'un marché régional et le développement de politiques communes dans l'industrie, les transports, les télécommunications, l'énergie, les ressources naturelles, le commerce, la monnaie et le secteur financier, les questions sociales et culturelles. Et puisque la laïcité se définit, selon Daniel Martin, comme une politique de neutralité des lois et des institutions de l'État par rapport à toute philosophie et toute origine ethnique, un principe de séparation dans l'État, de la société civile et de la religion, par celle-ci, il peut être conduit des projets de lutte contre la pauvreté et contre le terrorisme. C'est mon bien-être en moi qui va faire en sorte que ce bien-être vivifiant me permette de m'affirmer comme tel et donc de pouvoir combattre ce qui me donnerait des illusions qui pourraient être considérées comme des illusions perdues. Des actions de prévention et de résolution de conflits grâce à des mécanismes endogènes peuvent, sur le modèle de la charte de Kourou-Kanfougan par exemple, servir de modèle aussi bien à l'Union africaine qu'aux Nations unies. Oui, on a chuté sur tous les conflits d'Afrique et en Afrique. On les a d'ailleurs ensemencés. Avons-nous jamais utilisé les voies africaines de résolution des conflits? C'est ici que ce colloque me permet de prôner, moi, ce que j'appelle la diplomatie coutumière africaine, qui va prendre en compte ce fameux schéma que Jacques a eu du mal à faire reproduire dans Synergie, le schéma de la métacommunication, qui n'est pas le schéma de Jacobson, mais le schéma de métacommunication qui postule qu'en Afrique, il y a un émetteur prime, qui tamise le discours et qui renvoie à un récepteur prime, qui à son tour tamise le discours pour le renvoyer à un récepteur réel. Car en fait, et c'est cela qui permet de postuler que le roi ne parle pas en public parce que la parole du roi, une parole blessante du roi peut provoquer la guerre. Donc, il faut pouvoir tamiser le discours par une série de symboles, de métaphores et d'images, de façon que le discours premier soit revu et corrigé avant d'atteindre son destinataire. Je ne sais pas si je peux conclure, mais je mettrai tout simplement vers une ébauche de conclusion. Face à la résurgence des conflits anciens, face à la poussée du terrorisme, face à la piraterie, et riche de ses valeurs et richesses anciennes, l'Afrique subsaharienne peut prendre un envol certain et offrir une autre voie, la voie de la diplomatie coutumière africaine révisitée au salut des nations en détresse. Les ambitions énoncées par le président en exercice de la CEDEAO nous y invitent, et c'était le 16 février 2012, et le président en exercice de la CEDEAO, c'est le président de la Côte d'Ivoire, donc le président Alassane Ouattara. Le président en exercice de la CEDEAO affirme deux ambitions majeures. Ambition 1, des milliers d'Africains fondent leurs espoirs sur une contribution positive et décisive de notre part, les chefs d'État, pour faire de notre région un ensemble uni, en paix et porteur de valeurs démocratiques. Ce sont ces valeurs qui font la prospérité des grandes nations. Première ambition. Deuxième ambition, notre sous-région fait face à de nouvelles menaces qui entraînent la résurgence des conflits anciens, fragilisent des pans entiers de nos sociétés et menacent nos capacités de défense. Nous devons définir une politique de défense commune, mutualiser nos moyens afin de juguler la poussée du terrorisme, de reprendre le contrôle de nos côtes livrées à la piraterie maritime et de contenir les flux d'armes qui aggrave la criminalité et le grand banditisme. Jeune Afrique, hors série, numéro 30. Au moins 5 clés s'offrent à la communauté qui devrait prendre appui sur les travaux des chercheurs. Première clé, la restauration de l'autorité de l'État, qui me paraît être le socle du rayonnement de toute dynamique de laïcité. la restauration de l'autorité de l'État en partant du village comme unité de mesure existentielle de bonne gouvernance. Deuxième clé, l'enseignement des mécanismes et des techniques de prévention de résolution de conflits. Je suis en train de m'y risquer en proposant un ouvrage que j'intitule « Discours sur la diversité culturelle et les stratégies de résolution des conflits dans les cités africaines ». Donc l'enseignement des mécanismes et des techniques de prévention de résolution des conflits. Troisième clé, une pratique savante du schéma de métacommunication telle qu'elle était vécue en Afrique ancienne. Et c'est là où j'aborde la grande question, parce que je crois qu'en Côte d'Ivoire, nous avons vécu d'un mal. La guerre est partie de la bouche, que je considère comme autoroute de la vie et de la mort. Ce qui m'a amené à énoncer la théorie de l'élégance langagière. Pouvoir tous dire, mais le dire avec élégance et courtoisie, de façon à pouvoir se faire entendre et accepter. Si alors on blesse par la parole on peut soigner, mais peut-on jamais soigner? La parole ne se ramasse pas. Quatrième clé, l'organisation administrative locale. Je crois que à ce niveau-là, il faudrait prendre en compte l'unité de mesure de la chefferie et des questions que nous évoquons. Et il faut pouvoir, je propose dans mon texte, une nouvelle structure de l'administration, parce qu'encore la communalisation n'étant pas généralisée, les villages ont encore un poids solide et il faut pouvoir restructurer l'organisation des villages et faire en sorte que les chefs de village, des sous-préfets délégués puissent avoir un certain nombre de compétences et d'actions qui leur permettent de se réaliser et de réaliser pleinement leur volonté de gouvernance. Quatrième clé, la capitalisation de la jeunesse. Et là, je voudrais vraiment lancer un appel. Je pensais que l'OIF serait là. La capitalisation de la jeunesse et de l'intelligence des jeunes par la diversification d'actions de construction et de protection des valeurs républicaines à travers une politique nationale et sous-régionale de service civique. Transformer tous ces jeunes de la rue et dans la rue, tous ces jeunes habillés de treillis, de toutes sortes, les transformer en dynamique de création dans une dynamique de plan national et régional de services civiques pour leur permettre de construire des plantations d'État, des usines d'État et en fait également faire en sorte que partant de là, ils puissent s'affirmer comme volonté en respectant le cycle du succès de la vie ou du cerceau de la vie en quatre quarts de siècle. Cinquième clé, l'enseignement des valeurs transreligieuses. Transreligieuses en partant de cette invite de Voltaire, on l'aime ou on l'aime pas, prière à Dieu. Texte que je cite souvent lorsqu'il s'agit de parler de la tolérance interreligieuse. Voltaire écrit, je le cite, « Ce n'est plus aux hommes que je m'adresse, c'est à toi Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps. S'il est permis à de faibles créatures perdues dans l'immensité et imperceptibles au reste de l'univers d'oser te demander quelque chose, à toi, Dieu qui a tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature. » Que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et des mains pour nous égorger. Que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil. Car tu sais qu'il n'y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de quoi s'enorgueillir. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. Je vous remercie.
Puisque ma femme a décidé que je
puisse. D'accord.
Et il marche bien ? Ça va ?
Ça va comme ça ? Vous m'entendez là?
Oui, ben voilà une communication, moi qui m'a rempli de joie et de reconnaissance même. Dans le schéma, malheureusement, je suis dans la quatrième partie, et ça, heureusement, tu as parlé d'immortalité, donc je suis peut-être encore en mesure de poursuivre ma route. Bon, tu es vraiment typiquement l'homme de l'élégance. L'élégance, pas seulement langagière, mais je crois qu'il y a chez toi une distinction naturelle qui fait qu'on t'écoute toujours avec le plus grand plaisir. Le plus grand plaisir parce que tu allies à la fois quelque chose qui est de la poésie, je crois, mais aussi un sens de l'humour, un petit peu à froid, mais qui, pour moi, est la quintessence, si l'on veut, de l'intelligence. Alors j'aimerais bien, par exemple, que tu m'expliques un peu ce que c'est que cette parenté à plaisanterie. Parce que je pense qu'effectivement, si la société contemporaine est si terne, si fatigante parfois, c'est parce qu'elle a oublié le sens de l'humour. Et si on ajoutait à la laïcité le devoir d'humour, je crois que ça nous ferait faire un bond en avant pour devenir un peu plus intelligent que ce qu'on est en ce moment. Alors, j'aimerais que tu m'expliques la parenté à plaisanterie. C'est quoi ça, cette parenté à plaisanterie? Et plaisante, hein, surtout. Vas-y, n'hésite pas.
Les mouvements migratoires ont amené les peuples sur leur chemin, parfois, à entrer en conflit avec d'autres peuples. Il y a eu mort d'homme en certaines circonstances, et de graves, finalement. Des pactes ont été signés, et c'est le sens de la charte de Kourou-Kanfougan, entre Soumaoro Kanté et Soundiata Keïta. Du coup, les peuples se rencontrant finissent par signer une convention qui va jusqu'au pacte de sang, disant désormais, par le fait de ce qui s'est passé, c'est le sacrifice qui a été fait par nos ancêtres, aucun de nos peuples ne peut s'autoriser à entrer en conflit avec un autre peuple. Les Baoulés diraient, par exemple, un Baoulé, c'est le même groupe ethnique venu du Ghana avec les Agni. On se rencontre, mais tu es mon esclave. Alors, esclave, donc on finit par plaisanter avec, oui, mais moi je ne suis pas ton esclave, d'ailleurs je suis ton maître. Mais regarde comment tu es habillé. Attention, ce jeu qui s'installe également entre les grands-parents et les petits-fils va permettre, au niveau de mes travaux, va permettre aux grands-parents de déclencher le processus de la parole au niveau du petit-fils. Mais attention, l'enfant n'est pas autorisé à insulter, à être impoli. C'est-à-dire qu'il y a une plaisanterie savante qui va faire en sorte que tout ce qui relève de l'infirmité, des parties intimes et tout cela ne touche pas à la plaisanterie. Le grand-père, le petit-fils ne peut pas s'autoriser à dire un certain nombre de choses. Si tel est le cas, alors les parents de l'enfant délèguent des personnes de l'âge du grand-père pour venir présenter des excuses, même dans la même famille, pour dire qu'il ne faut pas outrepasser un certain nombre de réalités. Donc on finit par, dès qu'on se reconnaît, d'ailleurs dans le Nord, vous allez voir, au plus fort de la crise, on a estimé que les alliances interethniques pouvaient permettre de résoudre les conflits. Et finalement, mes études, à la fin de plusieurs années de recherche, j'en suis arrivé à la conclusion que j'avais perdu mon temps. Car en fait, aucune alliance ne peut être effective si elle n'est assaisonnée de vertu. Puisqu'alors, les alliés de mes alliés s'allient contre d'autres alliés. Et donc, or, en Afrique de l'Ouest, les peuples qui sont les peuples champions des alliances, c'est tous les peuples du nord de la Côte d'Ivoire, par exemple, le Mali, le Burkina, jusqu'au Sénégal. Quand ils se rencontrent, ils disent « Hey John, quel beau nom portes-tu ? » Il suffit qu'ils disent « Bamba ». Bamba sait qu'il est l'allié de l'autre et donc qu'ils ne se doivent pas blessure, qu'ils doivent se protéger, qu'ils doivent développer la solidarité. Donc c'est vraiment un jeu qui permet. Ijon, quel beau nom portes-tu? Traoré. Traoré, l'alliance permet de savoir qu'il y a. Donc il y a les alliances patronymiques, il y a les cousinages à plaisanterie, il y a les parentés à plaisanterie, les alliances interethniques, entre ethnies. Donc il y a toute une panoplie de jeux d'alliance qui s'établit au niveau des différents peuples. Logiquement, mais ça n'a jamais été enseigné à l'école. Jamais. Et comme ça n'a pas été enseigné et que les générations passent et passent, alors il n'est pas certain que nous puissions le savoir ça dans nos cultures. Voilà l'un des points les plus faibles de la société.